Remercions Vincent Elschinger, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études dans le bouddhisme indien plus spécifiquement. Et il nous fait l'amitié de partager aujourd'hui son savoir. Ce n'est pas la première fois que les journées Henri Corbin jettent un éclairage sur la pensée extrême orientale. Nous avons déjà entendu parler de l'homme parfait dans la philosophie chinoise, de la présence des morts dans la pensée chinoise, dans l'imagination aussi en Chine. Maintenant, nous nous déplaçons plutôt vers le contexte indien. Je ne détaillerai pas toutes les publications de Vincent Elschinger. D'abord, elles sont beaucoup trop nombreuses. Et puis, ce sont des noms propres et des notions dans lesquelles je me perds. Mais je serais justement heureux que nous puissions nous instruire.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Laury. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis permis une petite présentation visuelle, un PowerPoint. Non pas parce qu'il comprendrait des textes, en fait il n'y aura pas de textes ou extrêmement peu de textes, à mon grand regret d'ailleurs, mais enfin j'ai préféré introduire un certain nombre de notions. D'autre part, je pense qu'il y a ici probablement beaucoup d'islamisants, enfin d'arabisants, peut-être de persophones, mais peut-être pas beaucoup de sanskritistes. Or l'essentiel évidemment de mon propos portera, ou incorporera, en tout cas interrogera des notions qui viennent plutôt du sanskrit, parfois du tibétain, mais jamais de l'arabe. Merci pour cette introduction. Je remercie donc effectivement Pierre-Laury, je remercie aussi les organisateurs de cette journée, en particulier l'association des amis de Henri et Stella Corbin. Je voudrais dire mon plaisir et le grand honneur qu'on me fait en m'invitant dans ce cénacle dont j'entends parler depuis très très longtemps. C'est un plaisir et un honneur parce que j'ai moi-même fréquenté beaucoup en fait l'œuvre d'Henri Corbin, mon adolescence finissante, on va dire, dans une autre vie, enfin dans ce qui est aujourd'hui une autre vie, parce que je n'entretiens plus le moindre rapport avec cette pensée, mais évidemment pour l'avoir beaucoup fréquenté, voilà, les bouddhistes parleraient de traces, de parfumage, d'imprégnation, de latence, enfin voilà, peut-être en reste-t-il un certain nombre de choses. En tout cas, je reste absolument fasciné pour évoquer Corbin par la limpidité, la créativité de son style, n'est-ce pas, de son écriture, qui est quelque chose qui me paraît toujours être un modèle à la fois d'élégance et de précision. Voilà. J'ai donc contracté une certaine dette par rapport à l'œuvre d'Henri Corbin. Je devrais peut-être dire que je ressens très très fortement devant vous aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Ou pour parler autrement, le sentiment de tomber comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas ? Simplement parce que, évidemment, mes préoccupations sont extrêmement différentes de celles qui sont les vôtres. Je serais dans l'incapacité totale de prononcer la moindre conférence liée à ce type de propos. Je pense qu'on le sait, c'est la raison aussi pour laquelle on m'a invité. Il n'y aura rien aujourd'hui qui puisse ressembler ni à de la théosophie, ni à de l'exégèse spirituelle. Rien qui pourrait même ressembler, je dirais, d'assez loin à la philosophie, quand bien même je conclurai sur un certain nombre de développements philosophiques indiens. Rien d'ésotérique non plus. Il ne sera pas question de Corbin, il ne sera pas question d'islam. Voilà, pour fixer les choses dès le départ, n'est-ce pas ? Donc il ne reste au fond pas grand-chose. Voilà, en fait, j'ai choisi... Enfin, lorsque vous m'avez invité, je me suis simplement posé la question, mais enfin, mon premier réflexe a été de dire « Mais je n'ai rien à dire. » Rien à dire, parce que simplement, pour moi, cette notion de la deuxième naissance est tout à fait étrangère au bouddhisme, en particulier au bouddhisme indien, tel que je le fréquente depuis un certain temps, ce qui n'exclut pas que la métaphore puisse trouver un certain nombre d'occurrences qui m'auraient échappé, mais de toute façon, si c'est le cas, elles sont extrêmement minoritaires et certainement extrêmement peu représentatives, quand même elles seraient certainement tout à fait intéressantes. Voilà, donc j'ai cherché à développer une sorte de réflexion sur le thème de la deuxième naissance dans le contexte du bouddhisme indien, en interrogeant un certain nombre de textes, de sources, en essayant de m'interroger aussi sur un certain nombre de candidats possibles, n'est-ce pas, à porter cette notion de la deuxième naissance dans ce contexte-ci. Donc je vous invite en fait à une sorte d'intermède, n'est-ce pas, avant le repas et après les hauteurs sphères métaphysiques que nous venons d'aborder avec la brillante conférence de Mathieu Terrier. comme toujours, une sorte d'intermède ou de divertissement, n'est-ce pas, sur le motif de la naissance, de façon générale, dans le bouddhisme. Alors je crois que lorsque je dis que la deuxième naissance, au fond, ne joue strictement aucun rôle dans le bouddhisme indien, et j'entends me limiter au bouddhisme indien, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ça exclut en particulier tout le domaine du bouddhisme dit zen, qui n'a aucun antécédent indien connu, et qui est quelque chose de proprement centra-asiatique et chinois dans son origine, quoi qu'on en ait dit. Je crois que l'argument est extrêmement simple. Une deuxième naissance, quelle que soit la façon dont on la conçoit, présuppose une première naissance, quelle qu'elle soit, quelle que soit la façon dont on la conçoit. Or, le bouddhisme indien ne prévoit et n'admet aucune première naissance. Il n'y a qu'une infinité de naissances. La naissance est sans commencement et virtuellement sans fin dans le temps. Elle est sans commencement parce que nous sommes, nous appartenons, nous errons, nous vagabondons, nous transmigrons, n'est-ce pas, dans un cycle d'existence qui est sans commencement ni fin parce que, au sens des bouddhismes, notre ignorance, notre naissance, qui est un concept qui est susceptible d'interprétations extrêmement diverses, de définitions extrêmement diverses selon les écoles, selon les milieux, selon les intellectuels, nous accompagne depuis toujours, elle est innée, elle est sahaja, n'est-ce pas ? C'est précisément le propos du bouddhisme que d'y mettre fin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que sans entrer, sans devenir soi-même bouddhiste, hors du bouddhisme, il n'y a point de salut, n'est-ce pas ? Il faut le dire et y insister malgré toute la propagande des mouvements néo-bouddhistes, n'est-ce pas ? Les bouddhistes insistent fortement sur le fait qu'ils ont le monopole des moyens de salut, c'est parfaitement certain. Si on n'embrasse pas le bouddhisme, on n'a aucune chance de mettre un terme un jour à cette ronde des naissances, n'est-ce pas ? Donc c'est un cycle qui est... Et cycle même est probablement une notion tout à fait problématique. Il n'y a rien de cyclique là-dedans. Il y a simplement une sorte d'errance permanente, comme ça, qui, en fonction des actes, de la qualité des actes, des mérites et des démérites accumulés au fil des existences, des différentes existences, dans certains types d'ensomatose, si je puis dire, encore que le terme soit lui aussi problématique, nous précipite dans le monde des dieux, dans le monde des animaux, etc., etc. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc il n'y a pas de deuxième naissance parce qu'il n'y a pas de première naissance. Et puis d'autre part, je dirais que quand bien même on identifierait une première naissance ou une première naissance, il n'y a strictement rien dans le dispositif, je dirais, spirituel, religieux, philosophique, bouddhique, qui soit le support qui reçoive le support de cette métaphore de la deuxième naissance. Il n'y a rien qu'on évoque comme une deuxième naissance. Voilà pour cet argument. Donc peut-être que dans un premier temps, je vais simplement me contenter d'évoquer un certain nombre de possibilités conceptuelles, de compréhension possible, de modèles de compréhension possible d'une deuxième naissance de façon extrêmement générale et de projeter sur elle un éclairage bouddhique, disons, n'est-ce pas, bouddhique indien. J'insiste encore sur le fait que les bouddhistes sont des nominalistes et je pense qu'ils admettraient volontiers que le bouddhisme lui-même n'existe pas comme tel. Lorsque je parle du bouddhisme, n'est-ce pas, c'est une notion qui n'a pas de sens mais qui a l'avantage d'être relativement commode d'une certaine manière. Le bouddhisme n'existe que dans ses expressions concrètes et dans les écoles en particulier, chez ses intellectuels, chez ses auteurs, chez ses dogmaticiens. Je voulais peut-être évoquer tout d'abord la question de la conversion, dont je cite ici une définition relativement intéressante parmi d'autres que fournit Pierre Hadot. Selon lui, la conversion peut se définir donc comme un changement d'ordre mental qui pourra aller de la simple modification d'une opinion jusqu'à la transformation totale de la personnalité. Voilà une possibilité de comprendre d'une façon ou d'une autre la deuxième naissance ou une deuxième naissance. Et je dirais que cette notion de conversion en elle-même n'est peut-être moins intéressante par elle-même que par le jeu en fait de deux notions qu'elle implique généralement dans les approches qui sont données de la conversion, qui sont celles de mots grecs, n'est-ce pas, celles d'épistrophé et de métanoïa. Alors on peut envisager tout d'abord la possibilité de comprendre la deuxième naissance ou une deuxième naissance en termes d'épistrophé, par quoi l'on entend un changement radical d'orientation qui implique l'idée d'un retour à soi, n'est-ce pas, d'un retour à l'origine, Et Addo parle d'une conversion retour de la réalité humaine à son essence ou à sa nature originelle. Il parle aussi d'anamnésis, n'est-ce pas, et d'éveil ou de réveil. Enfin voilà, il y a plusieurs notions qui sont ici impliquées. Alors, lorsqu'on considère cette valorisation d'un point de vue strictement bouddhique, on peut faire remarquer d'abord qu'elle est problématique parce que le bouddhisme, et c'en est le commun dénominateur, pour ainsi dire, ne reconnaît pas l'existence d'un soi. N'est-ce pas ? Le bouddhisme est un partisan acharné de ce qu'on appelle en anglais la selflessness, n'est-ce pas ? Insubstantialité de la personne, mais aussi insubstantialité des choses selon les milieux. Il n'y a rien qui corresponde à une substance pensante, il n'y a rien qui corresponde, ou qu'on regarde, et si on accepte quelques milieux et quelques écoles certainement mal comprises parce qu'elles ne nous sont connues qu'à travers le témoignage de leurs adversaires, il n'y a rien qui ressemble à un substrat stable, personnel ou non personnel, de la personnalité consciente et inconsciente et qui serait le support de la transmigration. C'est le grand défi du bouddhisme, d'une certaine manière, de refuser la notion d'un soi permanent et substantiel tout en admettant la transmigration. C'est ce qui le fait différer beaucoup des courants brahmaniques, hindous ou même jain. Donc en fait, le bouddhisme n'admet pas la notion d'un soi, en tout cas d'un soi permanent, substantiel, d'une substance pensante ou que sais-je encore, ce qui rend la notion d'un retour à soi évidemment problématique. Je pourrais dire aussi que s'il s'agissait de comprendre cette chose-là dans une perspective peut-être plus diachronique, même, pourquoi pas, métaphorique, d'une chute, on pourrait dire aussi que le bouddhisme n'admet pas même la notion d'une chute, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de chute qui permettrait, par exemple, quelque chose comme une régénération. Régénération spirituelle ou autre, c'est-à-dire le retour à un état initial. Évidemment, le bouddhisme, qui est peut-être plus démythologisé encore que le christianisme et que la plupart des religions abrahamiques, connaît quelques mythes, en tout cas d'un certain nombre de textes auxquels on se réfère volontiers comme contenant des mythes, prêchés volontiers par le Bouddha. Souvent, ces mythes sont satiriques, et probablement satiriques de certaines représentations et narrations brahmaniques, essentiellement. Il y en a un en particulier que l'on retrouve dans un texte tout à fait fameux qui est l'Aganya Sutta. C'est donc un sutta, un sermon du Bouddha qui porte sensément sur les choses originelles, n'est-ce pas, et qui évoque un scénario de dégénérescence graduelle de l'humanité, et qui évoque donc un état initial de l'humanité. Lorsqu'on parle d'initial, le mot sanskrit ici est pratamakalpika. C'est donc pas un commencement absolu, puisqu'il n'y a pas de commencement absolu. En fait, au même titre que la naissance n'a pas de commencement dans le temps, le monde et les cycles cosmiques n'ont pas de commencement dans le temps. Mais on peut quand même localiser à l'initial de chacun des cycles, n'est-ce pas, un moment, n'est-ce pas, initial de l'humanité. On présente cette humanité comme faite d'esprit, par exemple, comme se mouvant dans l'espace, comme se nourrissant de joie, par exemple, ou de lumière, des corps de lumière, etc. Ce qui est frappant ici, c'est que toutes les représentations bouddhiques de l'état libéré, de l'état à rechercher à travers le bouddhisme, c'est-à-dire la libération du samsara, libération du cycle des renaissances, n'entretiennent strictement aucun rapport avec cet état. C'est-à-dire que ce que recherche le bouddhisme n'entretient strictement aucun rapport d'aucune sorte avec le type de descriptions qui sont données de l'humanité initiale, n'est-ce pas ? Donc en fait, il n'y a pas matière à rejoindre ou à retrouver ou à imaginer une régénération qui consisterait dans le retour, n'est-ce pas, la réintégration dans cet état-là. Voilà. Et puis, il y a peut-être une chose qu'on peut mentionner ici, qui serait peut-être un candidat plus intéressant, mais qui est très minoritaire au sein du bouddhisme et qui, à ma connaissance, n'utilise pas du tout la notion non plus d'une deuxième naissance. C'est le courant qu'on appelle celui du Tathagatagarbha. Alors, Tathagatagarbha signifie en sanskrit l'embryon du Tathagata, ou par Tathagata, il faut entendre le Bouddha. Un Tathagata, c'est tout simplement une désignation ordinaire du Bouddha, ou d'un Bouddha, n'est-ce pas ? C'est l'ainsi aller, n'est-ce pas ? Celui qui est venu à cet état de salut, selon la méthode qu'il prescrit et qu'il prêche. Et selon ce courant qui appartient au grand véhicule bouddhique, se loge, au fond, séjourne au cœur de chacune des créatures. Le bouddhisme d'Extrême-Orient admet même que le constat vaut pour les végétaux, n'est-ce pas ? ce qui n'est généralement pas le cas en Inde. Les végétaux n'y sont pas compris en Inde, c'est-à-dire pour le bouddhisme, n'est-ce pas? Il y a certainement eu des débats à l'origine du bouddhisme sur la question de savoir si les plantes, les végétaux sont animés ou non, et s'ils sont animés, comment. Mais enfin, le bouddhisme a rejeté cette possibilité dans son ensemble, le bouddhisme indien, disons. Donc existe au fond de chacun d'entre nous, mais aussi au fond des animaux et des dieux et de tout ce qui compose le cycle du samsara, une nature de Bouddha, une nature latente, une nature virtuelle, n'est-ce pas, qui subsiste au cœur de chaque créature, si je puis dire, au même titre que l'or non raffiné. Et toute la perspective, tout le chemin bouddhique consiste précisément à raffiner cet or. Voilà. Ça existe à titre d'une latence ou d'une virtualité. Rien encore ici qui se rapproche d'une façon ou d'une autre de la notion d'une deuxième naissance. Si je me tourne maintenant vers la notion parent, si je puis dire, dans ce complexe que forme le motif, la constellation de la conversion, alors on invoque assez volontiers aussi la notion d'une métanoïa, n'est-ce pas ? Repentir, évidemment, parmi certaines de ces significations grecques. Mais c'est une notion qui implique notamment l'idée d'une mutation, l'idée effectivement d'une renaissance. Ado ici parle aussi d'une conversion, mutation, renaissance, nouvelle naissance, réenfantement. Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait riche de possibilités conceptuelles par rapport à la deuxième naissance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bouddhisme admet un nombre tout à fait considérable de contreparties possibles à cette notion d'une métanoïa, c'est-à-dire d'une mutation radicale, d'une transformation, au fond, radicale de l'individu humain, d'une transformation spirituelle radicale qu'il mettrait dans l'état de libération. Et c'est même, au fond, le paradigme dominant dans la notion même d'un Bouddha, c'est-à-dire de devenir Bouddha, c'est-à-dire de s'éveiller. Et c'est-à-dire, c'est un état qui présuppose évidemment un changement tout à fait radical dans le mode d'être, mais aussi dans le mode de connaître de la personne. Alors ça se localise dans plusieurs motifs bouddhiques, j'en ai signalé l'un ou l'autre ici. Je viens d'évoquer la bodhi, c'est-à-dire l'éveil, qui fait d'un bodhisattva, d'un être destiné à l'éveil, un Bouddha éveillé. On peut mentionner aussi le motif tout à fait connexe de la révolution, de la transformation du point d'appui en sanskrit ashraya para ou pari vritti, voilà, très littéralement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une transformation, d'une transmutation absolument radicale du mode d'être à la fois corporel mais aussi gnoséologique, épistémologique de la personne ou de la pseudo-personne qui le subit. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, à ma connaissance, encore une fois, aucun de ces événements fondamentaux, n'est-ce pas, porteurs, fondateurs, au fond, du bouddhisme comme tel, et de la trajectoire du Bouddha historique comme tel, n'est jamais associé à la notion d'une deuxième naissance, à ma connaissance. Ces notions, faut-il peut-être le rappeler aussi, n'ont rien, enfin, pour ce qui est de la métanoïa, ici en tout cas, n'ont strictement rien d'un événement, n'est-ce pas? Alors la bodhi du Bouddha, l'événement au fond épistémologique, en particulier gnoséologique, qui fait du bodhisattva un Bouddha, est évidemment un événement qui est circonscrit dans le temps, il n'y a aucun doute à ce sujet-là, mais en fait il est le produit d'une quête spirituelle, n'est-ce pas, d'un chemin, le bouddhisme parle de chemin, qui s'étend sur des myriades et probablement des milliards d'existences successives. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle volontiers le gradualisme. Peut-être peut-on rappeler ici un débat ou une controverse importante qui ont eu lieu entre 792 et 795. On dit volontiers à Lhasa, en fait plutôt à Samye, qui a opposé, c'est un débat extrêmement riche de fortune et d'avenir par rapport au bouddhisme tibétain, qui a opposé en fait un courant gradualiste et un courant subitiste. Alors ce courant gradualiste, c'est celui en fait qui représente le bouddhisme indien comme tel, c'est-à-dire le bouddhisme qui considère que on ne peut se libérer, en particulier on ne peut obtenir ce mode suprême de libération qu'est la bouddhéité, d'une certaine manière, l'état de Bouddha, l'éveil complet et insurpassable, qu'après un nombre incalculable, on parle de périodes cosmiques, n'est-ce pas, de milliards de périodes cosmiques successives, de pratiques bouddhiques, de pratiques en particulier des perfections bouddhiques, la charité, la vertu, l'énergie, enfin voilà, ce genre de qualités spirituelles et mentales, morales. Alors que le subitisme, c'est précisément, lors de cette controverse, l'approche zen. C'est-à-dire que la controverse oppose à Lhasa, à la fin du 8e siècle, un représentant du bouddhisme indien et un représentant d'un type, en tout cas d'une variété de bouddhisme chinois. Il s'agit de Hoshang Mahayana de ce côté-là et de Kamalashila, de l'autre, son antagoniste. Chacun prétend avoir gagné. La physionomie générale du bouddhisme tibétain montre en fait que le parti indien paraît l'avoir emporté d'une façon ou d'une autre, puisque le bouddhisme tibétain est profondément gradualiste. Ceci pour dire simplement qu'effectivement, encore une fois, la métanoïa, la transformation peut être circonscrite dans le temps, mais elle est précédée et rendue possible, elle est conditionnée effectivement par un cheminement extraordinairement long. Et l'un des éléments, l'un des piliers de ce cheminement qui s'étend sur plusieurs milliards d'existences, myriades d'existences successives, c'est ce que le sanskrit appelle Punya Jnana Sambhara, c'est-à-dire que ce bodhisattva, cet être spirituel, est censé accumuler des équipements, Sambhara, de Punya, c'est-à-dire de mérite spirituel, et de Jnana, de connaissance. Donc durant ces existences successives, le bodhisattva s'équipe en mérite d'un côté et en connaissance de l'autre. C'est le sens aussi de la notion d'un bodhisattva. Un bodhisattva, c'est très littéralement un être à éveil, un être destiné à l'éveil, non pas destiné au sens d'une nécessité interne, n'est-ce pas, mais simplement parce qu'il en a fait le vœu. Il a fait l'expérience, il a pris la décision de ce qu'on appelle le cittottpada, la production de la pensée de l'éveil. Le futur Bouddha l'a fait aussi. Donc le bodhisattva, c'est quelqu'un qui se destine à l'éveil et qui pratique en particulier la compassion sur des myriades d'existences successives. Et on en trouve un témoignage littéraire dans une catégorie de textes qu'on appelle les Jataka. Et très littéralement, les Jataka, ce sont des récits de naissance précédente, antérieure du futur Bouddha, où on le voit renaît en animal, renaît en dieu, renaît en roi, etc., etc., se livrant à toute une série d'activités nobles et compatissantes. Voilà. Donc en fait, on retrouve un certain nombre de traits, évidemment, dans le bouddhisme, mais rien, encore une fois, qui soit jamais associé à une deuxième naissance. J'ai évoqué comme ça, par hypothèse, la possibilité d'une seconde naissance, pourquoi pas par la grâce. C'est embêtant, le bouddhisme, de même qu'il n'admet pas l'âme ou le soi, il n'admet pas Dieu. En tout cas, il n'admet pas de Dieu créateur, n'est-ce pas ? Et évidemment, par extension, il n'admet pas de Dieu dispensateur de grâce, quand bien même certains types de Bouddhas peuvent intervenir dans la vie des fidèles, mais c'est une chose qui est certainement débattue. Donc on n'admet pas de Dieu créateur, en tout cas. Il s'agit d'une pure hypothèse. Et puis ensuite, alors peut-être plus intéressant pour notre propos, il y a la notion d'une seconde naissance par le rite et en particulier par l'initiation. Alors, le bouddhisme entretient un rapport tout à fait particulier avec le rite et les rites. Je pense que le bouddhisme est plus rituel et plus ritualisé qu'on l'a imaginé, même dans des périodes, je dirais, prétantriques, durant les 1000 premières années de son existence, peut-être. Mais enfin, de toute façon, le rite est bon à prendre dès lors qu'il permet l'interaction, une interaction fructueuse, la propitiation des dieux en particulier, enfin voilà, puisque le bouddhisme est sans dieu créateur, mais il a un panthéon, n'est-ce pas ? Il a un panthéon de dieux qui sont simplement des dieux de renaissance. Nous sommes susceptibles de renaître Dieu, mais forcément, nous mourrons aussi à cet état de Dieu. Voilà. Donc le bouddhisme admet effectivement les rites par rapport à l'interaction avec le non-humain, avec le divin en particulier, la propitiation des dieux, mais il est extrêmement réfractaire à l'idée qu'un rite, quel qu'il soit, puisse entraîner une modification radicale ou non, d'ailleurs, du régime ontologique, du mode d'être, n'est-ce pas, de la personne. Et c'est là que se noueront un certain nombre de controverses entre les bouddhismes, on va dire, du courant dominant, de mainstream, si je puis dire, et puis les bouddhistes tantriques qui, eux, admettent précisément que l'initiation peut avoir un impact tout à fait important sur le mode d'être, le régime ontologique du mis, si je puis dire, n'est-ce pas, du tantrika. J'évoque ici simplement le baptême parce qu'il peut être compris et il est parfois compris comme une renaissance dans le Christ. Alors le bouddhisme n'a pas de baptême. Voilà, c'est, alors pour toutes sortes de raisons, la question ne se pose pas. Se pose en revanche celle de l'initiation. Alors elle se pose en plusieurs termes. Il y a d'abord la question de l'initiation tantrique. À ma connaissance, elle n'est jamais associée au motif de la deuxième naissance. Donc celui qui subit de la part de son gourou, qui est proprement divinisé, une initiation tantrique n'est généralement pas compris comme renaissant. N'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'une renaissance, les métaphores qui y sont associées ne sont pas de cet ordre-là. Je dois avouer d'emblée que je ne suis pas du tout un spécialiste du bouddhisme tantrique indien, raison pour laquelle je me suis tourné vers un certain nombre de spécialistes, d'amis spécialistes, qui m'ont confirmé en fait que cette métaphore n'existe pas. Il y a parfois des métaphores de renaissance parmi les dieux ou des choses comme ça, mais enfin, rien qui ressemble de près ou de loin à une deuxième naissance. En revanche, il y a quelque chose qui est certainement plus qu'un simple candidat à la deuxième naissance, c'est l'initiation brahmanique. Alors évidemment, on se situe ici dans un environnement proprement non-bouddhique, brahmanique, ou pour simplifier les choses, pourquoi pas hindou. Ben, voilà. Ne serait-ce que précisément parce que ces choses préservent une certaine pertinence dans le monde hindou. Alors, pour ce qui est des trois classes ou castes supérieures, celle des brahmanes, celle des kshatriyas. Les kshatriyas, c'est l'aristocratie militaire, n'est-ce pas, qui donne les rois en particulier, et les vaishyas, qui font toute la masse de l'économie des éléments productifs, au fond, économiquement productifs. On appelle ces gens-là des deux fois nés. Ils sont deux fois nés, pourquoi ? Parce qu'ils ont subi, à un âge qui peut varier selon les codes disciplinaires, entre 8 et 12 ans, ils ont subi une initiation qui a pour vocation de les purifier de l'impureté liée à leur naissance biologique. Pourquoi ? Parce que la naissance biologique est naissance du sang et du sperme, comme nous le disent les textes, qu'elle est donc impure. Et cette deuxième naissance leur permet de se purifier précisément de cette pollution liée à la naissance biologique. C'est l'accès au Veda. Donc on quitte sa famille biologique, on acquiert idéalement un gourou qui est un second père, qui est un père spirituel, qui va impartir, qui va enseigner le Veda, ou en tout cas un Veda, au jeune étudiant brahmanique, qui va être investi du cordon brahmanique, et on le considère donc à partir de ce moment-là deux fois né. Il a donc enregistré une deuxième naissance. Problème ici encore concernant le bouddhisme, c'est que le bouddhisme indien s'oppose farouchement à cette notion. Il s'y oppose farouchement, pourquoi ? Parce que cette notion implique précisément la supériorité de statut, la supériorité hiérarchique de certaines castes par rapport à d'autres, et par rapport aux femmes aussi, donc du genre mâle par rapport aux femmes, parce que les femmes ne sont pas éligibles, justement, n'ont pas accès au Veda, mais aussi parce que ça concerne qu'une certaine catégorie de la population. Donc ces trois classes supérieures. Or, le bouddhisme, qui n'a jamais été révolutionnaire et qui n'a certainement jamais été réformateur d'un point de vue social, est assurément rejette profondément la notion de la caste, en tout cas le traitement, on va dire, philosophique, réaliste, des castes et des classes sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, selon les bouddhistes, le même type de différence entre une vache et un cheval, enfin, je veux dire, entre un brahman et un kshatriya, par exemple, qu'il y en a entre une vache et un cheval, et ça, c'est la position brahmanique, n'est-ce pas ? Il y a une vraie différence ontologique, aussi physique, biologique, évidemment, entre les individus des différentes castes, que le bouddhisme réfute absolument. Pour lui, les castes, les statuts sociaux sont strictement conventionnels, de pure convention. Ce sont des noms, sans plus. Alors, ils ont une pertinence, évidemment, dans la société, mais le bouddhisme tranche précisément par rapport à cette société, puisqu'il s'agit d'une forme de communauté spirituelle, d'une certaine manière. Donc, dans l'ordre bouddhique, ou dans les ordres, dans les communautés bouddhiques, il n'est jamais question de reproduire en fait l'ordre social, les castes, voilà, les hiérarchies de castes, les hiérarchies sociales. Comment le bouddhisme s'en est accommodé exactement ? Ça a certainement été beaucoup plus problématique qu'on ne le dit, n'est-ce pas ? Parce que ces préjugés de caste sont extrêmement importants. On sait que dans certaines communautés sri-lankaises ou d'Asie du Sud-Est, les différences de caste sont aujourd'hui, et depuis en tout cas le 11e, 12e siècle, où les choses sont attestées, sont bien présentes. Et puis on pourrait citer d'autres témoignages qui montrent qu'en fait les choses n'ont certainement pas été aussi faciles. Mais en tout cas, le discours, si je puis dire, officiel en direction de l'extérieur, c'est que les castes n'ont pas d'existence réelle. Voilà. Donc en fait, le seul candidat, je crois que la seule valorisation réelle de la deuxième naissance ou de la renaissance dans un contexte indien, véritablement attestée, c'est celle justement de la, du deux fois né, n'est-ce pas ? Et le bouddhisme la rejette. Alors, je crois que il faut dire, la naissance et donc la renaissance sont perçues dans le bouddhisme comme éminemment négatives et comme douloureuses. Alors, s'il fallait réduire le bouddhisme, en particulier le bouddhisme indien, à une notion particulière, un slogan fondamental, c'est que tout est douleur. Voilà. On pourrait disserter à l'infini sur la question de tout est douleur, même le plaisir est douleur. Il cherche à montrer que même le plaisir est douleur, essentiellement parce qu'il est éphémère. La renaissance est donc douleur, la naissance ou la renaissance est donc douleur. Et ça vient en bonne place dans les caractérisations bouddhiques, canoniques, n'est-ce pas, de ce que c'est que la douleur. C'est même la douleur par excellence, c'est la naissance ou la renaissance. On imagine bien dans ce contexte-là que la notion d'une renaissance ou d'une deuxième naissance est complètement dévalorisée. Quand bien même elle existerait, au fond, elle serait aussi peu positivement connotée que l'est la naissance elle-même. En particulier, la renaissance n'est jamais perçue, en tout cas dans un bouddhisme d'orientation monastique, comme une deuxième chance qui nous serait offerte d'une façon ou d'une autre. Non, la naissance est douleur, et d'avoir à renaître, c'est-à-dire à remourir perpétuellement, c'est la marque la plus spécifique, la plus caractéristique de la douleur. Et le bouddhisme, précisément, a pour ambition de mettre un terme définitif à la douleur, c'est-à-dire à la renaissance, et donc à la ronde des renaissances dans le samsara. Et la métaphore dominante ici, c'est de présenter le Bouddha comme un médecin. N'est-ce pas ? On ne parle même pas de médecin des âmes puisqu'il n'y a pas d'âme, mais c'est un médecin, en fait. Un médecin qui pratique un diagnostic, ce sont les quatre vérités saintes, qui pratique un diagnostic, qui identifie une étiologie, un état à recouvrer et qui prescrit donc une thérapeutique. L'objectif, c'est d'obtenir effectivement ce qu'on appelle le nirvana, qui est la disparition définitive des passions humaines. Et c'est en cela que consiste précisément le bouddhisme. On se situe néanmoins dans quelque chose qui peut s'apparenter à une sorte de paradoxe, puisque le bouddhiste rejette la naissance, au fond, comme quelque chose d'éminemment négatif, comme le paradigme même de la douleur, et en même temps, il n'y a pas de salut sans existence. C'est-à-dire que pour faire son salut, il faut des myriades, je l'ai dit tout à l'heure, d'existences successives, mais le salut consiste précisément à mettre un terme à la naissance. Voilà, donc on a une situation qui est potentiellement paradoxale ici. Et cette notion de la naissance ou des naissances successives comme une condition de possibilité paradoxale, certes, de l'éveil, a été fortement accentuée par des auteurs plus tardifs, par des philosophes plus tardifs, je pense à Dharmakirti et à son école, et qui ont cherché justement pour cette raison-là à développer ou à redévelopper ou à raffiner ou à sophistiquer des preuves de la réexistence, des preuves de la renaissance contre des milieux matérialistes qui précisément niaient la renaissance. Nier la renaissance, c'est nier la possibilité même du salut, d'une certaine manière, puisqu'il en faut beaucoup pour obtenir le salut. Donc on a cherché à démontrer la renaissance ou la réexistence. Voilà, donc je n'ai pas besoin de revenir sur la notion d'une multiplicité ou d'une infinité des renaissances. Le samsara, la métaphore dominante ici, encore une fois, le samsara, le cycle des renaissances ou de la réexistence, de l'existence, de la transmigration, c'est un océan. C'est le samsara samudra. Il est sans commencement ni fin, comme je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que l'ignorance ou la naissance est son congénito, consubstantiel à l'être humain et à toutes les créatures transmigrantes. Et puis le produit qui est la cause immédiate, en fait, la cause prochaine de la renaissance, c'est la soif, c'est le désir, c'est la concupiscence qui sont directement engendrées par l'ignorance ou par la naissance. C'est parce qu'il y a naissance qu'il y a concupiscence, parce que nous désirons, nous agissons, et parce que nous agissons, nous renaissons. Voilà. C'est l'idée fondamentale qu'il y a sous toutes ces choses-là. Alors, peut-être très très brièvement, bon, vous avez certainement déjà vu, ce sera ma seule image, j'aurais bien aimé en apporter plus, mais enfin voilà, c'est... Je ne sais pas comment ça apparaît exactement, simplement pour vous présenter ce qu'on appelle le Bhava Chakra ou le Samsara Chakra, c'est-à-dire le cercle chakra, c'est un cercle. Alors de bhava, c'est l'existence, ou du samsara, c'est évidemment ce cycle de la transmigration. Et les bouddhistes admettent généralement, à l'origine probablement cinq destinées ou destinations transmigratoires, ce qu'on appelle des gati, de la racine verbale gam, qui signifie simplement aller, donc aller en direction d'un séjour, d'un nouveau séjour transmigratoire. Alors, trois ou quatre sont mauvaises ou sont défavorables, on en parle comme de durgati. Ce sont les existences comme damnées, comme trépassées et comme animaux. Parfois, on y ajoute les titans ou les antidieux. Ces représentations sont sommairement les mêmes, mais en fait, elles peuvent varier beaucoup dans la disposition et l'économie générale. On a les dieux et les asuras, n'est-ce pas, les antidieux. On a ici ce qu'on appelle les démons faméliques. Alors les démons faméliques, en fait, pour ceux qui sont familiers des Barbapapa, c'était quelque chose qui est extrêmement proche d'un Barbapapa, c'est-à-dire que ça a exactement la même forme, et ça a une bouche en forme de tête d'épingle et un énorme abdomen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont soumis au supplice de Tantal, et qui... Et qui donc ont constamment faim, ont constamment soif, et sont constamment privés de manger et de boire. Les damnés sont soumis à des tortures effroyables dans des enfers qui sont bien réels, n'est-ce pas ? Il faut y insister. Le néo-bouddhisme, enfin les principaux courants néo-bouddhistes aujourd'hui cherchent à gommer l'existence des enfers bouddhiques. Ça fait un peu mauvaise impression par les temps qui courent, mais enfin, il faut bien insister sur le fait qu'ils existent, quand même on en a des interprétations idéalistes aussi, n'est-ce pas ? Mais l'idéalisme n'est qu'un développement très tardif dans le bouddhisme. Et puis, il faut noter, alors il y a des enfers chauds, des enfers froids, ils sont représentés ici. Malheureusement, la résolution est très mauvaise. Et puis, les animaux. Alors, une renaissance animale est une renaissance négative, n'est-ce pas ? Renaître animal, c'est quelque chose de très, très problématique. Il faut donc en sortir. Et puis, il y a deux destinées qui sont généralement considérées comme bonnes ou comme favorables. Les sugati, donc, c'est la destinée humaine. À partir du moment, surtout, où on a la chance de renaître mâle, c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas ? Et idéalement dans une condition sociale et économique supérieure. Les bouddhistes sont très conscients de ce genre de questions-là et ils développent même la notion d'une sorte de déterminisme social qui est relativement intéressante avec des types de naissances un peu intermédiaires. Vous avez toutes les difficultés du monde à sortir du monde animal ou d'une matrice animale. Le risque, c'est de renaître parmi les barbares ou de renaître dans une condition sociale telle qu'elle favorise au fond chez vous la commission d'un certain nombre de crimes qui vont vous reprécipiter d'une certaine manière dans un monde animal ou même infernal. Et puis enfin, vous avez les dieux et les déesses qui coulent alors une vie absolument paisible, une vie de plaisir sensuel, plus ou moins sensuel en fonction de la hiérarchie, n'est-ce pas ? Plus on monte dans la hiérarchie cosmique, cosmologique, moins les êtres sont corporels et donc moins ils n'ont de stimulation sensorielle, mais enfin les dieux average, si je puis dire, les dieux moyens, en fait, vivent une existence extrêmement longue de plaisir sensuel. C'est très bien pour vous et moi qui y aspirons certainement d'une façon ou d'une autre, c'est très très mal pour un spirituel et en particulier pour un bouddhiste. Renaître Dieu, c'est se garantir d'avoir à différer très très longuement, en fait, le retour à une condition humaine qui seule permet d'une certaine manière le salut. Toutes ces conditions sont éminemment douloureuses. C'était mon propos. Elles sont douloureuses. Alors, je pense que c'est tout à fait évident dans le cas des trépassés, des damnés. On a évoqué les souffrances dans les enfers chauds, dans les enfers froids. Il y a des descriptions, des pages entières, des dizaines, des centaines de pages de descriptions des souffrances les plus affreuses dans les enfers. Ça soutient une morale, n'est-ce pas ? Le bouddhisme est d'abord une morale avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, on a ces souffrances. On pourrait lire des textes à n'en plus finir. Les trépassés, la souffrance qui est propre aux trépassés ou aux démons faméliques, j'y ai fait allusion tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est encore une fois ce supplice de Tantal. Les animaux, le mode de souffrance propre aux animaux, c'est que le gros poisson mange le petit poisson, c'est-à-dire que les gros mangent les petits, n'est-ce pas ? Et que c'est un monde de peur permanente, enfin voilà, on s'entre-dévore et on s'effraie. Pour les dieux et les antidieux, les antidieux, c'est un petit peu plus problématique, mais heureusement, ils ne sont généralement pas représentés, en tout cas en Inde, parce qu'on admet plutôt 5 destinées que 6. Pour ce qui est des hommes, eh bien, la souffrance qui est la plus caractéristique, c'est celle de la frustration. Voilà.
Nous aspirons à toutes sortes de choses et nous sommes constamment frustrés. Et puis enfin, le mode de souffrance le plus répandu parmi les dieux et les déesses, c'est le fait qu'il faudra un jour mourir à cette condition-là, c'est-à-dire cesser d'être un dieu et cesser d'être une déesse, cesser justement de passer son existence dans les plaisirs sensuels. Et ça provoque chez les dieux et les déesses, et les choses sont vraiment très précisément décrites, ça provoque chez eux et chez elles, en fait, stupeur et tremblement, n'est-ce pas ? Il y a des symptômes, toutes sortes de symptômes qui montrent, qui manifestent auprès de ces dieux et ces déesses qu'ils sont proches de perdre leur existence divine, leur mode d'être divin, et qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre redescendre sans bien savoir où, le plus souvent. Voilà.
Je devrais peut-être mentionner, mais je vais le faire alors extrêmement brièvement, le motif de l'existence intermédiaire, qui est relativement bien connu dans le contexte du bouddhisme indien et de façon plus générale. L'existence intermédiaire, qui est généralement associée à la notion aussi d'un corps subtil, sukshma sharira, matière subtile, n'est-ce pas, dérivée des grands éléments, entre le moment de la mort et le moment de la renaissance, peut prendre place, selon certaines écoles, pas selon toutes, durant une période de 7 jours ou de 49 jours, cette fois 7 jours, une période qu'on appelle l'existence intermédiaire, qui permet au composé psychomental de rejoindre, au fond, sa nouvelle ensomatose, d'une certaine manière, pour simplifier les choses. Si je ne simplifiais pas, je dirais que le bouddhisme n'admet même pas la réincarnation, même pas la métensomatose, parce qu'il s'agit là encore une fois de simples métaphores. On pourra peut-être y revenir plus tard ou à l'occasion des questions. En tout cas, l'être intermédiaire, en fait, va de ce lieu au lieu de sa renaissance. Et il y a des textes qui sont extrêmement intéressants par rapport à ça, notamment sur le fait que, dans le cas d'une réexistence humaine, vous voyez ce composé qui est présenté sous la l'angle de la figure mythologique du Gandharva, du musicien céleste, parce qu'il se nourrit d'odeurs, et c'est une étymologie ici fantaisiste, certainement. Enfin voilà, vous avez l'être à renaître qui se situe, voilà, qui est pratyupasthita, c'est le mot sanskrit qu'on utilise ici, au lieu même où ses parents copulent, n'est-ce pas ? Et au moment même où les deux semences se mêlent, voilà que cet être intermédiaire fond littéralement sur ces deux éléments en voie de coagulation et, d'une certaine manière, les anime. Les textes, il était question de psychologie plus haut, alors il s'agit peut-être d'une psychologie relativement sommaire, mais on a parlé parfois d'un passage freudien, n'est-ce pas, dans certains textes canoniques et en particulier dogmatiques là-dessus, parce qu'en fait, si l'être intermédiaire est destiné à renaître homme, généralement, il va détester son père, et il se range d'un côté de l'utérus, et inversement, s'il s'agit d'une renaissance féminine. J'aurais voulu évoquer brièvement aussi, mais je pense que le temps m'est compté désormais. Enfin, de combien de temps est-ce que je dispose encore ? Très bien, merci. Simplement, cette question des renaissances joue aussi un rôle tout à fait particulier dans la bouddhologie, les bouddhologies dominantes. Lorsque le bodhisattva, le futur Bouddha, devient Bouddha à l'occasion justement de l'obtention de l'éveil, selon la légende pieuse à l'âge de 35 ans, il obtient 6 Abhijñā, traduit parfois, c'est un barbarisme, super savoir, super connaissance. 5 d'entre eux sont accessibles à des non-Bouddhas, et l'une d'entre elles, qui est la certitude du salut, est propre au Bouddha, au singulier ou au pluriel. Parmi les Abhijñā qui peuvent être partagés, il y a celle de la remémoration des existences antérieures, c'est-à-dire qu'un néo-Bouddha, un nouveau Bouddha, en fait, a la capacité de se rappeler l'intégralité de ses existences, de ses séjours, le terme sanskrit est Nivasa, pardon. Et Nivasa, c'est vraiment comme en hindi aujourd'hui, enfin, c'est un mot qui est encore bien courant, c'est un séjour, n'est-ce pas, un lieu, un séjour, n'est-ce pas, toutes ses existences antérieures, mais il a aussi la capacité qu'on nomme en sanskrit Shuti Upapattijñāna, qui mériterait une parenthèse fermante ici, qui manque, c'est la connaissance des morts et des renaissances, c'est-à-dire qu'un Bouddha a la capacité, grâce à ce qu'on appelle son œil divin, de voir tous les êtres, dans tous les temps passés, présents et futurs, tous les êtres englués au fond dans le samsara, et de connaître exactement quels ont été les paramètres de leur existence, et ce qui explique qu'ils obtiennent telle ou telle destination, telle ou telle condition. Et ça donne lieu à une littérature d'un type un peu particulier, qui est celle des avadanas. J'ai mentionné tout à l'heure la littérature de Jataka, qui sont des récits de naissances antérieures du Bouddha. La littérature d'avadana sert précisément à montrer, dans le cas des interlocuteurs principaux du Bouddha, que leur existence présente s'explique de telle ou telle façon. Voilà, le Bouddha a cette capacité de voir, n'est-ce pas, dans le passé, de la mécanique karmique des différents êtres. Le Bouddha peut donc expliquer pourquoi, le pourquoi et le comment de l'agir de tel ou tel être. Très brièvement pour conclure, voilà, et j'entendais de toute façon rester bref sur cette question parce qu'elle est complexe et qu'elle nous mènerait assez loin. Elle est malheureusement celle qui nous conduirait de nouveau sur le chemin de la philosophie ou d'une certaine philosophie qui, en l'occurrence, n'a rien d'ésotérique, en tout cas d'un point de vue théosophique. Je ne mets pas en équivalence d'ailleurs les deux termes ici, mais d'un point de vue bouddhique, en fait, il s'agit de philosophie tout à fait positive, avec des arguments tout à fait complexes, sophistiqués, logiques, etc. Sur la question de la Renaissance, et en particulier contre le matérialisme. Alors, on a en Inde des traditions matérialistes. On a d'abord des discours matérialistes qu'on rencontre dans les différents canons, en particulier dans le canon Jain et dans le canon bouddhique, dans les premiers siècles avant notre ère, probablement, avec un texte qui est tout à fait intéressant, qui concerne le roi Payasi, alors qui est un roi qui n'a pas d'existence historique par ailleurs, et qui a ce site particulier, ce sont des textes tout à fait fascinants, qui a ce site particulier, qui s'était livré à des expériences extrêmement macabres, n'est-ce pas, et cruelles, sur des prisonniers, sur des condamnés, pour essayer de démontrer l'inexistence de quelque chose comme une âme ou d'un principe transmigrant. C'est un matérialiste tout à fait convaincu. Enfin, il n'est pas présenté dans ses strates très anciennes encore de ses littératures comme un matérialiste, mais enfin, il en accuse plus ou moins tous les traits. Et alors, il se livre à toutes ces expériences macabres de démembrement, d'écorchement, d'enfermer, de mettre à mort quelqu'un en l'enclosant en fait dans une jarre scellée. Enfin voilà, le laisser mourir pour voir si l'âme s'en va. Enfin voilà, etc. Il y a toute une série de descriptions comme ça qui sont tout à fait intéressantes, à défaut d'être toujours très très amusantes. Et voilà, donc c'est un personnage important. Purana Kashyapa est un antagoniste fondamental du Bouddha. Il fait partie des six maîtres censément rivaux du Bouddha, et lui, c'est un matérialiste bontain aussi, qui nie évidemment la Renaissance, mais qui nie plus fondamentalement toute, parce que lorsqu'on nie la Renaissance, on nie évidemment toute possibilité d'une rétribution, n'est-ce pas, des actes de cette vie-là. C'est la raison pour laquelle on prête volontiers aux matérialistes indiens un hédonisme caractérisé. À partir du moment où il n'y a pas d'au-delà dans lequel on pourrait vivre, expérimenter, faire l'expérience de la rétribution des actes, eh bien, fais ce qu'il te plaît, n'est-ce pas? Et on a des couplets, on a toute une série de propos qui sont donc prêtés à ces matérialistes. Et puis intervient au 4e ou au 5e siècle de notre ère, ici, un courant mieux constitué, mais certainement pas au sens d'une école institutionnalisée, simplement vient de se cristalliser dans un texte fondateur de sutras, d'aphorismes, n'est-ce pas, de vocation mnémotechnique, qu'on appelle les Brihaspati Sutras, et qui sont donc qui est le texte fondateur du matérialisme entendu au sens d'une école de philosophie, une école volatile certainement, mais de philosophie ou philosophico-religieuse, encore qu'elle n'a rien de religieux en l'occurrence. Et c'est contre ces Brihaspati Sutras, contre cette école des matérialistes, qu'on connaît sous plusieurs noms, n'est-ce pas? Je ne les ai pas ici. Si, Loka, Yata, Barhaspatya, Charvaka, qui comportent tous des nuances un petit peu particulières. C'est donc contre ces matérialistes-là que vont se tourner les bouddhistes à partir, je dirais, du 6e, 7e siècle de notre ère en particulier, pour essayer de court-circuiter systématiquement les arguments matérialistes de façon à démontrer négativement ou positivement, en fait, la possibilité d'une existence... d'une réexistence, l'existence présente comme le résultat d'existence précédente et l'existence future comme le résultat de l'existence présente, agrémentée évidemment de... Et là, alors, on a des arguments qui sont canoniques à l'ancienne, qui cherchent plutôt à démontrer la plausibilité en fait de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on cherche à proposer des scénarios, des explications alternatives. Alors c'est par exemple Payasi qui dit, bon ben voilà, j'ai des amis extrêmement proches dont j'étais intime qui sont tombés malades, et au moment de leur mort, je leur ai demandé, n'est-ce pas, de revenir me dire si effectivement il y avait un autre monde, ou de m'envoyer en tout cas un message. Or, ils ne sont jamais revenus, donc il n'y a pas d'autre monde. Et évidemment, ici, Kashyapa, qui est celui qui remplace ici, qui substitue au Bouddha ici dans ce dialogue, a beau jeu de lui montrer qu'il y a toutes sortes d'explications possibles au fait que ces messagers ou que ces personnes ne soient pas revenus. Donc on a un certain nombre d'arguments comme ça qui sont relativement intéressants, mais qui restent d'une nature au fond très très rhétorique. Et c'est à partir probablement du 1er ou du 2e siècle, dans des environnements, alors je dirais non bouddhiques, plutôt orthodoxes, c'est la Charaka Samhita, c'est une somme médicale, c'est l'une des deux grandes sommes de ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui encore l'Ayurveda, les Nyaya Sutra, qui est un texte logico-épistémologique brahmanique, et la Jatakamala, 4e siècle, qui est un texte alors plutôt bouddhique, qui est un texte plutôt narratif, mais qui, comme c'est souvent le cas dans les textes bouddhiques, incorpore un certain nombre de réflexions philosophiques. Alors là, on voit apparaître un certain nombre d'arguments beaucoup plus positifs, contrairement aux textes, aux strates canoniques, si je puis dire, où on fait intervenir, alors pour les donner comme ça, un petit peu en vrac, la notion qui est aujourd'hui extrêmement importante parmi celles et ceux qui cherchent aujourd'hui encore à démontrer la renaissance, rebirth, c'est très présent aux États-Unis, d'ailleurs sans très grande surprise, le fait que certains prétendent se rappeler leurs existences antérieures d'une façon extrêmement précise. Donc on fait le compte de ces choses-là et on le tient pour un argument possible en faveur de la renaissance. Il y a aussi la différence parmi les effets, c'est-à-dire de considérer que, voilà, si vous avez, admettons, deux parents, comment expliquer, enfin, deux mêmes parents, comment expliquer que deux frères, par exemple, n'aient pas la même durée de vie, n'aient pas les mêmes propriétés physiques, la même beauté, le même prestige social, etc. Donc on cherche à inventorier un petit peu ces différences d'effets. Et puis, parmi les arguments qui vont devenir relativement importants à date ultérieure, il y a un certain nombre de comportements, en particulier les comportements qu'on observe ou qu'on prétend observer, enfin qu'on observe, de fait, chez les nouveau-nés ou même dans des stades antérieurs de la vie embryonnaire. Alors, il y a la question, par exemple, du sourire. Voilà. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'un nouveau-né, rapidement après sa naissance, quelques semaines après sa naissance, sourit ? Il n'a pas pu apprendre dans cette vie, n'est-ce pas ? Il n'a pas pu accumuler, au fond, l'existence dans cette vie qui lui permettrait de répondre à une stimulation donnée par le sourire ou par les pleurs. De même, en va-t-il de l'allaitement ? Comment se fait-il qu'il se tourne immédiatement vers le sein maternel ? Il faut encore une fois ce que les bouddhistes appellent un abhyasa, c'est-à-dire un exercice répété qui ne peut avoir eu lieu à ces moments extrêmement, extrêmement précoces de l'existence humaine que dans une existence antérieure. De même, en va-t-il du désir, etc., etc. Donc on essaye de faire la somme d'un certain nombre de comportements qu'on explique comme qu'on juge n'être explicable que par une existence antérieure. Et puis enfin, on a des expériences, je m'arrêterai là-dessus, on a des arguments qu'on peut nommer post-classiques, n'est-ce pas, qui apparaissent alors plutôt chez des philosophes, alors... voilà, vraiment de plein droit, comme Dharmakirti, ses successeurs Shantarakshita, Kamalashila au 8e siècle, ou Dharmottara lui aussi au 8e siècle. On essaye d'expliquer la renaissance par la nature même de la conscience, par un dynamisme propre à la conscience, par la notion de santati, c'est-à-dire la notion d'une série. Au fond, il faut se représenter vraiment, et c'est pour ça que la notion d'une renaissance ou d'une transmigration ou d'une réensomatose est problématique, c'est que, en fait, ce qu'il y a, avec un degré minimal, aussi déréalisé que possible, ce qui existe véritablement, en fonction aussi du dogme, si je puis dire, de la momentanéité ou de l'instantanéité des choses qui est propre au bouddhisme, il n'y a que des instants, n'est-ce pas, de conscience, des instants de connaissance, et chacun de ces instants de connaissance, qui durent moins qu'un clin d'œil, n'est-ce pas, plusieurs milliers de fois moins qu'un clin d'œil, chacun de ces instants de connaissance charrie avec lui un certain nombre de complexes conscience et inconscient. Enfin, voilà, bon, voilà. Et de loin, on a le sentiment d'une ligne, c'est-à-dire d'une continuité. Lorsqu'on voit la chose de près, il ne s'agit que de points d'instant, n'est-ce pas, de kshana, de conscience ou d'événements, de mind events, n'est-ce pas, comme on pourrait le dire en anglais. Et voilà, c'est la seule réalité véritable. Donc ça veut dire que au moment de la mort, le moment de la mort, au fond, n'est que l'un de ces points, et que lui fait suite immédiatement un autre point, il n'y a rien qui transmigre d'une existence à l'autre. Il n'y a que cette série, d'une certaine manière, qui est charriée, qui ploie en fonction des paramètres que lui confèrent les actes, en particulier les mérites, les démérites, qui va prendre des formes relativement différentes, renaître une fois ici, enfin sous cette forme-là, avec tel paramétrage, une fois comme ça, mais de fait, rien ne transmigre. Il n'y a pas de réincarnation au sens strict du terme. Voilà. Je m'arrête là. J'ai peur d'avoir été vraiment très très long,